Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL et c'est le moment d'être curieux. Bonjour les amis.
Salut, Salut Christelle.
Tout va bien ?
On va parler ensemble aujourd'hui,
alors,
mais tout le temps.
En cette semaine, c'est ça, on se chevauche. En cette semaine de rentrée, on vous propose un tour du monde des écoles à la recherche du système idéal, s'il existe. En tout cas, des bonnes idées à transposer en France. On ira en Finlande, en Californie et à Singapour. Surprise garantie sur RTL vers 14h30.
Et tout de suite dans la curiosité, on découvre les Italiens qui ont fait la France.
Curiosité d'un vilain défaut.
Un italiano vero.
Je suis rital et je le rappelle.
C'est l'italienne.
Que l'amour.
Seconda la Venise.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
C'est Radio Italie. Aujourd'hui sur RTL, bonjour à tous, bienvenue dans votre curiosité du jour. C'est parti pour une heure de récits, de découvertes, de questions tout azimut et sans tabou. Vous allez bien Thomas Hugues ?
Ça va très bien Sidonie Bonnec, en forme ?
Oui, très bien.
Bon, en belle forme.
J'aime bien quand vous dites mon nom de famille.
Bah oui, 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 après tout, pourquoi pas. Salut les curieux.
C'est nos origines.
Bonjour à toutes et à tous. Alors vous, c'est breton ?
Bah, moi c'est breton, et vous vous rappelez que ça veut dire la trapue, on
ouais,
était trapus dans la famille.
Et moi c'est pied noir d'Algérie et Corse, voilà mes origines, il y a un peu de Mayenne
beau
aussi
métissage.
Là-dedans. Et en même temps, je ne suis pas sûr que c'est ça qui vous passionne, qu'on raconte nos vies. Mais comme d'habitude, dans la curiosité, il y aura de l'aventure, de la science, des grands destins, nature, espace, saga musicale, histoire, il y en a pour tous les goûts.
De l'histoire, justement, pour commencer, on part à la rencontre des Italiens qui ont fait la France à l'occasion d'un numéro spécial du magazine Historien en partenariat avec RTL. Bonjour Alberto Toscano.
Buongiorno.
Ah, buongiorno.
Ça fait du bien aux oreilles,
voilà,
ça. Bonjour.
On parle italien, on parle italien.
On est ravis de vous accueillir au
Grazie.
Micro de la curiosité. Si vous pouviez passer en français, ça nous arrangerait quand même.
Ah ben ouais,
mais bon,
d'accord.
Je
garde l'accent quand même.
Ah, s'il vous plaît. Évidemment, vous êtes écrivain, journaliste, et vous avez coordonné avec Eric Pinca ce numéro sur les Italiens qui ont fait l'histoire. Spécial, 100 pages. Alors, on a tous un ami, un proche, un collègue italien. Est-ce qu'on sait quelle proportion de la population française a des origines italiennes ? Parce qu'on aime bien, vous savez, avoir des petits repères chiffrés.
Impossible à dire, parce que l'histoire de l'immigration italienne en France a été tellement une histoire à succès, si on la regarde du point de vue historique. Il y a eu des moments difficiles, des accrochages, même des morts à certaines occasions, et je pense en particulier à ce qui s'est passé à Aigues-Mortes en 1893, quand il y a eu un pogrom anti-italien contre les travailleurs italiens des salines du Midi. Mais si on regarde du point de vue de l'histoire, alors on ne peut que dire que l'immigration italienne a été une formidable histoire à succès. Au point qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus détecter l'origine italienne, parce que certains noms ont été changés. Je pense au politologue Pascal Perrino. Sa famille s'appelait Perrino. Il est devenu un grand politique. Qui peut dire que son origine est italienne ?
Oui,
qui
parce
peut
que ça dire... s'écrit E-A-U aujourd'hui.
Exactement. Oui. Coluche. Colucci. Qu'est-ce qu'il y a de plus italien que Colucci? et on pourrait continuer. Alors, il
mais
y a...
ça commence quand? Ça commence quand l'immigration italienne en France?
Écoutez, l'année prochaine, on célèbre les 500 ans de la mort en France d'un certain Léonard de Vinci. Et, donc c'est une histoire qui commence... Ça va, Jules César ?
Ça commence avec François Ier qui accueille Léonard
exactement,
de Vinci.
Exactement. Et l'année prochaine, on sera tous là à dire il y a 50 ans.
Mais les vagues d'immigration importantes.
Alors, la vague est après l'unité d'Italie. Mais déjà avant l'unité d'Italie, entre la Révolution française et l'unité italienne, il y a une vague de réfugiés politiques. Et il y a, à la moitié du 19e siècle, une vague aussi de... Une vague limitée, mais quand même une vague de... Italiens qui vient en France pour des raisons économiques, qui s'établit en particulier en Val-de-Marne. Et qui sait que l'accordéon, symbole de la musique française, est arrivé en France grâce aux migrants de la province de Bergame, en Italie. Et encore aujourd'hui, et d'ailleurs dans ce numéro spécial de Historia, on met une interview avec l'accordéoniste Azzola, qui est d'origine de Bergame.
Il y a aussi cette deuxième vague d'immigration italienne, Alberto Toscano, dont on parle souvent, qui est dans les années 20, tous ces Italiens qui vont fuir le fascisme grandissant dans leur pays. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'Yves Montand arrive en France en février 1924. Qui est son père ? Que fait-il ? Et que fuit-il concrètement ?
Voilà, la famille Montand et une famille engagée contre le fascisme. Et le couple de parents de Ivo Livi, la famille Livi,
oui,
c'est... pas la famille Montand, la famille Livi.
Ivo Livi, c'est le vrai nom de Montand.
Voilà, parce que Giuseppina, la mère de Ivo, avait l'habitude de lui dire, viens à la maison, ne reste pas à jouer. Et il disait, Ivo, monta. Et monta, en toscan, il parle le langage de Toscane.
Ah, donc, il l'a transformé en Yves Montand.
Yves Montand devient un moment où Yves Montand choisit son nom d'art hein, pour le cinéma, pour son activité dans la vie publique.
Et pour la chanson, tiens, on écoute un petit peu
on l'écoute.
À bicyclette.
Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette.
Alberto Toscano, il s'installe dans quelle région, les Livi?
Les parents Livi partent de Toscane, Musumano, et ils s'installent en région parisienne. Et c'est là que Yves Montand commence faisait ses études. La famille arrive en 1923-24. Yves Montand est né en 1921, donc c'est un enfant, c'est un bébé de 2 ans quand il arrive en France. Et là, la famille obtient la naturalisation française en 1929. Ceci dit, on considère en général que le père d'Yves Montand a voulu fuir le fascisme, c'est sans doute vrai, mais il faut dire que en 1923, quand il prend la décision de venir en France, il y avait encore un espoir pour la démocratie de gagner contre la dictature. Et le tournant vient en 1924. Alors, effectivement, des Italiens sensibles à la cause de la démocratie ont quitté le pays. Peut-être que l'Italie avait besoin de tous ses efforts pour gagner encore, et que c'était encore possible de gagner en 1924 contre Mussolini. Mais certains ont, et il faut le comprendre, on cru que c'était une bataille perdue et on préférait aller vivre dans un pays démocratique comme la France.
Alberto Toscano, comment il a été accueilli, Yves Montand, comme Italien? Quel souvenir il en garde? Je ne sais pas si vous avez sous les yeux une phrase qu'on retrouve dans l'Historia où il dit « Même si j'étais petit, j'ai compris ce qu'était l'injustice, l'oppression, l'humiliation. Toute ma vie a été influencée par l'accueil en fait, qu'on m'a réservé. »
C'est une réaction qui est commune à beaucoup de migrants italiens. Surtout à cette période, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France a besoin de travailleurs de bras. Et les Italiens sont les partenaires idéaux, le partenaire idéal de ce passage de la migration à l'intégration. Mais il y a à l'intérieur de la société française encore une méfiance vis-à-vis de nouveaux arrivés. Et Yves Montand et sa famille en ont fait les frais, comme des dizaines, voire des centaines, des milliers de familles italiennes qui, dans une première période, ont connu un accueil difficile et qui ensuite ont gagné, grâce à leur ténacité, la bataille de l'intégration.
Et Lino Ventura, on va l'entendre dans un instant dans La Curiosité, en parle, marqué à jamais par la cruauté des enfants français. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
C'est moi, c'est l'Italien.
D'abord, je voudrais dire pourquoi je suis venu en France.
Venu.
Pourquoi je suis moi venu en France.
Moi, j'ai bien compris, mais on dit venu.
Nu.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah non, mais je suis venu habillé, hein.
Oui, non, bien sûr, je comprends. Non, mais en français, on dit venu, nu.
Ah, pourquoi je suis venu nu, habillé, ayé en France.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Extrait d'un sketch de Jacques Do et Jean-Marc Cattella, l'acteur italien, avec évidemment l'amusement autour de cet accent, parce que c'est vrai qu'il nous fait aussi rire, l'accent italien. Et puis on écoute quelques notes de Serge Reggiani, qui a si bien chanté l'Italie et l'italien. Alberto Toscano, vous avez supervisé ce magazine Historia 100 pages en partenariat avec RTL sur ces Italiens qui ont fait la France, qui font la France. Ils sont nombreux à l'affiche des films français qui nous font encore rêver et briller les yeux aujourd'hui, les films des années 50, 60, 70. Et justement, Serge Reggiani. C'est quoi son histoire, Serge Reggiani?
Ben, c'est une histoire d'immigration en France comme beaucoup d'autres, mais surtout c'est cette histoire extraordinaire à succès dans le cinéma, ouais, qui a duré et qui s'est matérialisée dans toute une série de films franco-italiens qui ont marqué l'histoire du cinéma mondial. Et moi, je pense en particulier à l'interprétation de Serge Reggiani dans l'un des chefs-d'œuvre de Ettore Scola, l'un des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma italien. Mm-hmm. Et c'est La Terrasse, ce film de 1980, qui est une nouvelle Dolce Vita. Une fenêtre sur cette société italienne au moment de la crise d'une certaine politique et qui anticipe ce qui se passera plus tard. Et dont ce film extraordinaire d'Ettore Scola est une coproduction franco-italienne avec Serge Reggiani comme l'un des protagonistes. Et ça se situe dans la continuité avec la série de coproductions franco-italiennes des années 50, 60, 70, et qui a oublié l'interprétation d'Alain Delon dans Le Guépard.
Bien sûr.
Et Visconti. Et tout, oui. Le cinéma des deux pays est un cinéma qui fait partie
alors
de la même
justement,
famille.
Comment vous l'expliquez? On a des racines communes, latines, on a des modes de vie communs. Comment ces deux pays, c'est de peuple, et là on parle de cinéma, donc de culture, se marient aussi bien. Pourquoi ils se marient aussi bien?
On a une perception commune, mmh, une perception commune de la réalité, et après la guerre, une grande envie d'introduire à l'intérieur du cinéma une réflexion politique engagée. Et je pense au néoréalisme italien. Mmh. Et ces films de l'époque, entre les années 40 et 50, les films de Rossellini, entre autres, sont des films qui sont perçus en France comme un exemple. Et à son tour, le cinéma italien perçoit les films français des années 60 et 70, La Nouvelle Vague notamment, comme un exemple à suivre. Donc il y a cette relation particulière qui est entre les deux cinémas parce que il y a une relation particulière entre les deux sociétés et cette relation existe aussi grâce à l'immigration italienne en France.
Autre grand destin artistique, Alberto Toscano, dont vous parlez dans ce numéro spécial d'Historia, autre immigré italien qui a grandi en France, c'est Lino Ventura. Écoutez d'ailleurs le souvenir de ses premières années en France. C'est une interview qui date de 1977.
Je suis arrivé en 1926, c'est-à-dire j'avais 7 ans. Et je me suis retrouvé dans le quartier des Italiens. Et là a commencé ma vie de jeune immigré. J'ai fait une incursion à l'école élémentaire qui s'est soldée au bout de quelques temps par un échec total. La cruauté des enfants est une des choses les plus terribles qui existent.
Paraît-il.
C'est effrayant. C'est effrayant. Une période est vite arrivée où je me suis retrouvé tout seul avec ma mère, si vous voulez. Et mes études ont été, je vous le dis, très 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 brèves, disons que... Mais enfin, j'étais rarement en classe, pour vous dire la vérité.
Et où étiez-vous?
Dans la cour de l'école, avec un autre petit Italien.
Pourquoi? Parce qu'avec les petits Français, ça n'allait pas bien?
À l'époque, ça marchait pas très bien, non. Et puis aussi, peut-être qu'on avait deux foutus caractères, faut dire. Et puis, il y a la barrière du langage.
Alberto Toscano, pardon, la barrière du langage dont parle Lino Ventura, ça a été souvent un obstacle pour l'intégration des Italiens.
C'est l'un des obstacles. Et il faut penser que les migrants italiens en France, aussi à l'époque où Lino Ventura arrive, sont des familles qui parlent rarement la langue italienne. En famille, on parle le dialecte. L'Italie est un mosaïque de réalités locales. En Val d'Aoste, on parle français, en patois français. En Sicile, on parle évidemment le sicilien. et ces langues, il y a des films du néoréalisme de juste après la guerre tournés en sicilien qui, pour moi, piémontais, sont réellement difficiles à comprendre. Donc, la barrière de la langue existe déjà dans ces familles par rapport à l'Italie. Même s'ils vont de Sicile à Turin, il y a la barrière de la langue. À plus forte raison, s'ils viennent en France. Et le paradoxe est que ces familles d'immigrants italiens en France font en sorte que les enfants n'apprennent pas l'italien, n'apprennent pas le dialecte et qu'ils parlent seulement français. C'est une façon d'obliger les enfants à s'intégrer dans la société.
Alors, Alberto Toscano, s'il y a un événement sportif qui réunit les Français chaque été sur RTL et ailleurs, c'est le Tour de France. Saviez-vous que le premier vainqueur du Tour, on est en 1903, il vient d'où, au hasard? Il vient d'Italie.
14h-15h, RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Ils sont nos racines, ils ont contribué à faire la France comme on la vit, comme on l'aime. Aujourd'hui, on découvre l'histoire des immigrés italiens avec l'écrivain et journaliste au magazine Historia, Alberto Toscano. Vous venez avec ce numéro spécial 100 pages qu'on a la chance de pouvoir lire pendant 2 mois en kiosque. Et ça, c'est vraiment sympa. On va voyager un peu dans le temps. 1903, c'est la toute première édition du Tour de France. Quel cycliste va l'emporter?
Un Italien naturalisé français depuis seulement quelques mois. Écoutez, quand Guillaume Mallory, le directeur de Historia, m'a proposé de coordonner ce numéro spécial, je dis il faut qu'on parle des cyclistes, des champions cyclistes italiens qui ont fait le Tour de France. Et le premier qui a gagné le Tour de France, Maurice Garin. Le nom est vraiment, il n'a pas été francisé parce qu'au Val d'Aoste, on parle français. C'est tout. Devant l'hôtel de ville de certains villes Val d'Autun, de villages Val d'Autun, c'est écrit mairie en français. Donc, la langue. Et vous savez, en Val d'Aoste, on ne peut pas enseigner dans les écoles si on n'est pas bilingue, si on ne parle pas le français en plus que l'italien.
Et donc, il ouvre une page.
Une page,
Maurice Garin. Voilà. Il va y avoir énormément de grands cyclistes italiens naturalisés français ou italiens qui vont briller dans le tour.
Ramoneur. Il arrive en France comme ramoneur. On l'appelle le petit ramoneur italien. Et le petit ramoneur se met à bicyclette. Il commence à gagner la Paris-Roubaix. Il est encore italien qu'il gagne la Paris-Roubaix. En décembre 1901, il est naturalisé français et il gagne la première édition du Tour de France en 1903. Et il devient un mythe du cyclisme français. Et ensuite, en 24-25, c'est Ottavio Bottecchi, encore un italien, qui gagne le Tour de France et qui passe une longue période de sa vie en France. Et ensuite, on a le mythe de Gino Bartali en 38, qui gagne le Tour de France en 38, qu'il gagne encore le Tour de France en 48. Et ensuite, c'est Fausto Coppi, il campionissimo, qui gagne le Tour de France en 49 et en 52. Bref, le Tour de France, emblème, s'il y en a, du cyclisme mondial, est aussi une histoire à succès franco-italienne.
Et puis un grand sport français aussi qu'on adore, c'est le football. Combien d'Italiens, de descendants italiens portaient le maillot de l'équipe de France de football?
Ah, plusieurs.
Enfin, il y a une trentaine, ce que vous dites dans l'Historia.
Ben, il y a un nom, Michel Platini, évidemment, le symbole de l'amitié franco-italienne, Michel Platini qui parle un italien parfait, qui a joué à la Juventus de Turin, symbole de l'équipe de France.
Il arrive comment? Avec ses grands-parents?
Avec ses grands-parents. Avec sa famille, il s'établit en Lorraine. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire d'une ministre française, Aurélie Filippetti, la famille qui s'établit en Lorraine. Et il y a certaines régions françaises où les Italiens s'établissent, et il y a même des histoires particulières. Pensez-vous qu'il il y a une relation entre la ville de Corato, dans les Pouilles, et la ville de Grenoble. Et il y a, grâce au bouche à oreille, il y a aujourd'hui à Grenoble les descendants des migrants de cette ville italienne de Corato qui se transfèrent. Et il y a comme un jumelage réel, parce que beaucoup de Grenoblois, encore aujourd'hui, ont des origines de cette ville de Pouilles. Et il y a, entre l'immigration à Bordeaux et d'autres villes italiennes, il y a des situations particulières qui se créent, et entre en particulier la Moselle et certaines localités de la Lorraine en général, et certaines localités du Piémont. D'ailleurs, la région, la province de Biella, dont la famille Platini est originaire.
Vous ne parlez pas, enfin, vous parlez pas français, vous n'êtes pas français?
Non, italien, parce que vous comprenez l'italien,
non.
Vous avez compris
non,
ce que
non,
je
Non, moi je ne parle pas italien du tout.
La curiosité est un vilain défaut.
J'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. En fait, je n'arrive pas à communiquer avec un monsieur qui est juste là-bas.
RTL.
Media ora sperando, arrivo tardi all'aeroporto d'Orly. E stiro tardi al
travail. Qu'est-ce qu'il raconte?
Je sais pas, j'ai aucune idée, je parle pas espagnol.
Comment ça, vous m'avez dit que vous étiez italien? Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit?
Non, je comprends l'italien, pas l'espagnol.
Oui, non, mais ça va, italien, espagnol, vous comprenez?
un sketch de la chaîne YouTube Deux Italiens à Paris. Ces Italiens qui ont fait la France, c'est le thème de notre curiosité et le titre du numéro spécial du magazine Historia. C'est un partenariat avec RTL, Alberto Toscano. On a du divertissement, du cinéma, des chanteurs, des sportifs, mais aussi des légumes dans les bagages italiens. Et ça, on est content. Qu'est-ce qu'on leur doit comme bons légumes?
On doit beaucoup à Marie de Médicis, parce que quand elle arrive en France, elle ne se limite pas à faire en sorte que le palais du Luxembourg soit réalisé à l'image des palais florentins.
Mmh. Et c'est devenu aujourd'hui, pardon, je vous interromps, le monument le plus visité par les Français lors des journées du patrimoine. Voilà. Ce palais du Luxembourg, le Sénat. Donc, merci Marie de Médicis.
Le monument italien le plus visité de Paris.
Mais les sénateurs aiment bien manger, donc ils mangent quels légumes?
Voilà, les sénateurs mangent une bonne gastronomie française, une bonne cuisine française, préparée avec des produits qui, en partie, ont été introduits en France grâce à la présence de Marie de Médicis.
Mais il y a quoi alors au menu,
l'artichaut,
Alberto?
Par exemple. L'artichaut est arrivé à ce moment. Il faut penser, mais le poivron aussi, et il y a d'autres légumes italiens, mais en particulier l'artichaut, qui à l'époque de Marie avait, toujours de Médicis, était considéré comme un aliment aphrodisiaque. Et donc, ça contribuait à créer une certaine mentalité qui avait des conséquences favorables à la population française.
Ça doit être parce qu'il s'épluche, l'artichaut, ça doit être pour ça.
Peut-être.
C'est pour ça qu'on pense qu'il est aphrodisiaque.
Oui, parce qu'il y a une grande partie des Italiens qui étaient aussi des paysans, des cultivateurs, notamment dans le sud-ouest de la France.
Oui.
Ils ont fait jaillir des courgettes, des poivrons, des haricots verts, des tomates, voilà, des melons, de la pastèque. C'est incroyable.
Qui arrivent d'Italie aussi, qui ne sont pas nés en Italie comme origine préhistorique, mais qui ont été introduits dans la gastronomie par des cuisiniers italiens qui étaient considérés, qui étaient très renommés en Europe à l'époque de la Renaissance et qui venaient en particulier de la région des Abruzzes. Et d'ailleurs, les cuisiniers que Marie de Médicis a amené avec elle en France à ce moment quand elle est arrivée dans cet heureux pays, venait de cette partie d'Italie.
Merci.
Centrale.
Merci
beaucoup, Alberto Toscano. L'Historia spéciale 100 pages, les Italiens qui ont fait l'histoire, est disponible en kiosque pour 2 mois. Et puis, vous publiez Un vélo contre la barbarie nazie, le destin incroyable du champion Gino Bartali. C'est aux éditions Armand Collin. À bientôt. Merci.
Grazie.
Merci beaucoup.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.